Chapitre 16. Le lendemain matin. Le lendemain matin, Ivor Smith et Tommy, qui étaient en train de bavarder, s'arrêtèrent tout à coup de parler pour s'intéresser à Tuppence. Celle-ci, les yeux fixés sur le foyer de la cheminée, avait visiblement l'esprit ailleurs. « Où en sommes-nous ? » demanda Tommy. Avec un soupir, Tuppence refit surface. « Tout, évidemment, me paraît lié, » répondit-elle. « Mais la soirée d'hier, quel était son but ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? J'imagine que vous y trouvez un sens, vous, » dit-elle en s'adressant à Ivor Smith. « Vous avez une idée précise de la situation ?»«
Je n'irai pas jusque-là, » répliqua Ivor. « D'ailleurs, nous ne poursuivons pas tous le même but, n'est-ce pas ?»«
Pas tout à fait, » reconnut Tuppence. Ils lui lancèrent tous les deux un coup d'œil interrogateur. « D'accord, » déclara Tuppence. « Je suis une femme qui a une idée fixe. Je veux retrouver Madame Lancaster. Je veux être sûr qu'il ne lui est rien arrivé. »«
Tu dois d'abord chercher Madame Johnson, » répliqua Tommy. « Tu ne trouveras pas Madame Lancaster avant d'avoir trouvé Madame Johnson. »«
Madame Johnson, » répéta Tuppence. « Oui, je me demande. Mais tout ça ne vous intéresse pas, vous, » dit-elle à Ivor Smith.
« Oh, mais si, Madame Tommy, ça m'intéresse beaucoup. »
« Et M. Eccles, que devient-il là-dedans ?»«
Je crois, » répondit Ivor Smith en souriant, « qu'il ne va pas tarder à récolter les fruits de ses bienfaits. Cela dit, je ne parierai pas vraiment là-dessus. Il efface ses traces avec une incroyable ingéniosité, au point qu'on jurerait parfois que les traces en question n'existent pas. C'est un grand organisateur, » ajouta-t-il rêveusement, « un grand ordonnateur. » « Hier soir, » commença Tuppence, qui reprit en hésitant. « Puis-je poser quelques questions ?»«
Tu peux les poser, » répondit Tommy, « mais ne compte pas recevoir de réponse satisfaisante du vieil Ivor ici présent. »«
Sir Philip Stark, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire ? Ce n'est pas un gangster très vraisemblable, à moins que ce ne soit le genre qui... »
Elle s'interrompit retenant l'allusion qu'elle allait faire aux folles suppositions de Madame Copley relatives au meurtre d'enfants.
« Sir Philip Stark est une source précieuse de renseignements, » répondit Ivor Smith. « C'est le plus gros propriétaire terrien de la région, et d'autres régions d'Angleterre également. »«
Du Cumberland ?»
Ivor Smith lança à Tuppence un regard perçant.
« Du Cumberland, pourquoi mentionnez-vous le Cumberland ? Que savez-vous du Cumberland, Madame Tommy ?»«
Rien du tout, je ne sais pas pourquoi cela m'est venu à l'esprit, » répondit Tuppence, la mine perplexe et les sourcils froncés. Avec aussi une de ces roses anciennes, une rose panachée de rouge et de blanc à côté d'une maison.
Elle secoua la tête. « Est-ce que la maison du canal appartient à Sir Philip Stark ? » demanda-t-elle encore.
« La terre lui appartient. Il est propriétaire de presque tout le terrain alentour. »
« Oui, c'est ce qu'il m'a dit hier soir. Grâce à lui, nous en avons appris beaucoup au sujet des locations et des affermages astucieusement embrouillés dans des dédales légaux. »
Ces agences immobilières que je suis allé voir sur la grande place de Market Basing, elles sont louches ou est-ce moi qui l'ai imaginé ?
Vous n'avez rien imaginé du tout. Nous allons leur rendre une petite visite ce matin et leur poser des questions plutôt embarrassantes.
Parfait, dit Tuppence.
Nous avançons gentiment. Nous avons tiré au clair le grand hold-up de la poste de 1965, les cambriolages d'Albury Cross et l'affaire du train postal irlandais. Nous avons même retrouvé une partie du butin. Très astucieuses, des cachettes installées dans leurs diverses maisons. Une nouvelle salle de bain dans l'une, dans l'autre, un appartement avec deux chambres de service un peu plus petites qu'elles auraient dû l'être, parce qu'on y avait réservé des niches fort commodes. Oh oui, nous avons éclairci beaucoup de points jusque-là obscurs.
« Mais les gens, » demanda Tuppence, « je veux parler de ceux qui ont tout imaginé ou dirigé, mis à part M. Eccles, bien entendu. Il devait quand même y avoir d'autres personnes au courant. »
« Oh oui, deux hommes, dont l'un dirige une boîte de nuit située de façon particulièrement opportune, à deux pas de la route nationale M1, un être fuyant comme une anguille, et une femme surnommée Killer Kate, Kate la tueuse, une de nos criminelles les plus passionnantes, mais ça, c'était il y a longtemps. Une fille magnifique, mais dont l'équilibre mental était très incertain. Ils l'ont éliminée, elle aurait pu devenir trop dangereuse. » Leur entreprise est purement lucrative, axée sur le gain et non sur le meurtre. La maison du canal était une de leurs cachettes ?
À un moment donné, oui. sous le nom de Lady Mead. Elle a eu une foule de noms différents en son temps. « Juste pour compliquer les choses, j'imagine, » répliqua Tuppence. « Lady Mead. Je me demande si c'est en rapport avec... »«
Avec quoi ?»«
Oh, avec rien vraiment. C'est juste une idée baroque qui m'est passée par la tête, vous savez ce que c'est. Le malheur, c'est que je n'y comprends plus rien moi-même. Et ce tableau, auquel quelqu'un a rajouté une barque avec un nom... »«
Tiger Lily. » »«
Non, Water Lily. » Et sa femme qui affirme que ce n'est pas Bosco One qui l'y a mis. Comment peut-elle en être sûre? Il me paraît évident que quand vous êtes marié à un peintre, surtout si vous êtes artiste vous-même, vous savez reconnaître son style. Cela dit, je la trouve assez terrifiante.
Qui ça, Madame Bosco One?
Oui, c'est une forte personnalité, une personnalité écrasante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sans doute, oui.
« Elle sait des choses, » murmura Tuppence, « mais je ne suis pas sûr qu'elle les sache, parce qu'elle les sait, si vous comprenez ce que je veux dire. »«
Non, je ne le comprends pas, » décréta Tommy avec énergie.
« Eh bien, dans un sens, on peut savoir effectivement des choses, mais dans un autre, on peut en quelque sorte les sentir. »«
C'est comme ça que tu procèdes toi-même, il me semble, Tuppence. »«
Vous aurez beau dire, » reprit Tuppence, poursuivant son idée, « tout a bel et bien l'air de tourner autour de Sutton Chancellor, autour de Lady Mead, de la maison du canal ou comme il vous plaira de l'appeler, et de tous les gens qui ont vécu là, aujourd'hui ou hier. Il a dû s'en passer des choses ici dans le temps. »
« Vous pensez à Madame Copley. »
« En fait, je crois que Madame Copley ne fait que tout compliquer avec ses histoires. Elle confond tout, j'ai l'impression, les époques et les dates. »
« C'est le cas de la plupart des gens à la campagne, » remarqua Tommy.
« Je le sais bien, » répliqua Tuppence. « Après tout, j'ai été élevé dans un presbytère de campagne. Ils ne parlent pas en se référant à des dates, mais à des événements. Ils ne disent pas « c'est arrivé en 1930 » ou « ça s'est passé en 1925 », mais « c'est arrivé après que le vieux moulin a brûlé » ou bien « ça s'est passé après que la foudre a abattu le grand chêne et tué James le fermier » ou encore « c'est arrivé l'année où nous avons eu cette épidémie de polio ». Alors évidemment, les événements surviennent dans le désordre, ce qui ne facilite rien. Seuls pointent ici et là quelques faits particulièrement saillants, si vous voyez ce que je veux dire. L'ennui, naturellement, ajouta Tuppence de l'air de quelqu'un qui vient de faire une importante découverte, c'est que je vieillis, moi aussi.
Vous êtes d'une éternelle jeunesse, rétorqua galamment Ivor.
Ne dites pas de bêtises, riposta Tuppence. Je suis vieille parce que mes souvenirs suivent la même pente. « Je retourne à un stade primitif de la mémoire. » Elle se leva et se mit à tourner dans la pièce.
« Ce que c'est embêtant, ces hôtels-là !»
Elle passa dans la chambre à coucher et revint en secouant la tête.
« Pas de Bible, » ronchonna-t-elle.
« De Bible ? » Dans les anciens hôtels, on trouvait toujours une Bible près de son lit, pour pouvoir être sauvé, j'imagine, de jour comme de nuit. Bref, ils n'en ont pas ici.
« Vous voulez une Bible ? » ?»«
Ma foi, oui. » « J'ai été élevé comme il faut et je connaissais ma Bible par cœur, ainsi qu'il convient à une fille de pasteur. Mais maintenant, voyez-vous, j'ai tendance à oublier, d'autant plus que, dans les églises, on ne vous lit plus les Saintes Écritures comme c'était autrefois de rigueur. On vous en donne une nouvelle version, dans une traduction sans doute techniquement exacte et parfaite, mais qui ne ressemble en rien à l'ancienne. Pendant que vous irez voir vos agents immobiliers, moi j'irai faire un tour à Sutton Chancellor, » ajouta-t-elle.
« Pourquoi faire? Je te l'interdis !» déclara Tommy.
« Ridicule! Je ne vais pas jouer les limiers en maraude. Je vais juste aller consulter la Bible à l'église. Si je tombe sur une nouvelle version, j'irai demander sa Bible au pasteur. Il en a certainement une, non? J'entends la vraie Bible, la traduction de 1611.
Pourquoi as-tu besoin de cette traduction-là?
Parce que je veux me rafraîchir la mémoire à propos de ces mots qui étaient gribouillés sur la pierre tombale de l'enfant. Ils m'intéressent.
« C'est très bien, mais je ne te fais pas confiance, Tuppence. Une fois hors de ma vue, tu es capable de n'importe quoi. »«
Je n'irai plus hanter les cimetières, je t'en donne ma parole. Simplement l'église, par une matinée ensoleillée, et le bureau du pasteur, c'est tout. Quoi de moins dangereux ?»
Tommy la regarda sceptique, mais finit par céder.
Abandonnant sa voiture devant le cimetière, Tuppence regarda attentivement autour d'elle avant de pénétrer dans l'enclos. Elle éprouvait la méfiance de celui qui a déjà souffert en un point névralgique de son individu. Mais cette fois-ci, il ne semblait pas qu'un assaillant soit en train de la guetter derrière une tombe. Elle entra dans l'église où une vieille femme à genoux polissait des cuivres. Tuppence alla sur la pointe des pieds jusqu'au lutrin et examina le livre qui s'y trouvait. La femme qui nettoyait les cuivres lui lança un regard désapprobateur. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'emporter », lui lança Tuppence pour la rassurer. Elle referma le livre avec précaution et sortit toujours sur la pointe des pieds. Elle aurait bien aimé examiner l'emplacement des récentes excavations dont lui avait parlé M. Smith, mais elle avait promis de s'en abstenir.
« Quiconque offensera, » murmura-t-elle. « Ça pourrait vouloir dire ça, mais dans ce cas, il faudrait que ce soit quelqu'un qui... »
Elle fit en voiture la courte distance qui la séparait du presbytère et alla sonner à la porte d'entrée. Elle n'entendit rien résonner à l'intérieur. « La sonnette doit être cassée, » se dit-elle, en habituée des sonnettes de presbytère. Elle poussa la porte et pénétra dans le hall. Une grande enveloppe avec un timbre étranger se trouvait là, sur une table. Elle émanait d'une société de missionnaires en Afrique. « Je suis bien contente de ne pas être missionnaire, » estima Tuppence. Derrière cette pensée biscornue s'en profila une autre, quelque chose qui avait à voir avec une table quelque part dans un hall, quelque chose qu'elle aurait dû se rappeler. Des fleurs, des feuilles, une lettre, un paquet. Une porte s'ouvrit sur sa gauche et le pasteur apparut. « Ah » dit-il, « vous me cherchez, je... Oh, mais c'est Madame Beresford, n'est-ce pas ?»« Elle-même, » répondit Tuppence, « en fait, je suis venu vous demander si vous n'auriez pas par hasard une Bible. »«
Une Bible ?» répéta le pasteur, paraissant de façon tout à fait inattendue en douter. « Une Bible ?»
J'aurais pensé que vous deviez en posséder une, déclara Tuppence.
Bien sûr, dit le pasteur.
En fait, je dois même en avoir plusieurs. J'ai un Ancien Testament grec, mais ce n'est pas ce que vous cherchez, je suppose.
Non, répliqua énergiquement Tuppence. Je veux la version officielle de 1611.
Mon Dieu, s'émut le pasteur. Bien sûr, il doit y en avoir plusieurs dans la maison. Oui, plusieurs.
Nous ne nous servons plus aujourd'hui de cette version, j'ai le regret de le dire. Nous devons nous conformer aux idées de l'évêque, vous savez, et il est pour la modernisation, à cause des jeunes et de tout ça.
C'est désolant, à mon avis. J'ai tellement de livres ici que je suis obligé d'en enfouir certains derrière les autres. Mais je crois que je pourrais vous trouver ce que vous voulez.
Je crois que oui, sinon, je demanderai à Mademoiselle Bly.
Elle est là, quelque part, elle cherche des vases pour les enfants qui vont faire des arrangements de fleurs sauvages dans l'église. Il abandonna Tuppence dans le hall et rentra dans la pièce d'où il était sorti. Tuppence ne le suivit pas. Elle resta là, sourcils froncés, à réfléchir. Elle leva soudain les yeux quand la porte du fond s'ouvrit. Mademoiselle Bly apparut, tenant dans ses bras un vase de métal très lourd. Différentes pièces du puzzle se mirent brusquement en place dans l'esprit de Tuppence. « Mais bien sûr, » s'exclama-t-elle, « bien sûr. »«
Ah, qu'y a-t-il pour votre service ? Je...
Oh, mais c'est Madame Beresford !»
« Oui, » répondit Tuppence, qui ajouta,
« Et vous, vous êtes Madame Johnson, n'est-ce pas ?» Le vase tomba par terre, Tuppence le ramassa et resta à le soupeser.
« Voilà une arme bien commode, » dit-elle en le reposant, « idéale pour frapper quelqu'un par derrière.
C'est bien ce que vous m'avez fait, n'est-ce pas, Madame Johnson ?»«
Qu'est-ce que vous dites ? Je n'ai jamais... »
Mais Tuppence n'avait pas besoin d'insister, elle avait constaté l'effet de ses paroles. La deuxième fois qu'elle avait prononcé le nom de Johnson, Mademoiselle Bly s'était trahie de façon incontestable. Prise de panique, elle tremblait.
« Il y avait une lettre sur votre table l'autre jour, » dit Tuppence, « adressée à une certaine Madame York, quelque part dans le Cumberland.
C'est là que vous l'avez emmenée, n'est-ce pas, Madame Johnson, quand vous l'avez enlevée de la crête ensoleillée ? Et c'est là qu'elle se trouve maintenant, Madame York ou Madame Lancaster. Vous vous êtes servi des deux noms. » Comme cette rose ancienne du jardin des Péris, la York et l'Encastre, avec son panachage de rouge et de blanc.
Prestement, elle pivota sur ses talons et sortit du presbytère, abandonnant Mademoiselle Bly dans le hall, appuyée contre la rampe de l'escalier et la suivant des yeux bouche bée. Tuppence courut jusqu'à la grille, sauta dans sa voiture et s'éloigna. Elle jeta un coup d'œil en arrière à la porte d'entrée, mais ne vit personne apparaître sur le seuil. Après avoir roulé en direction de Market Basing, Tuppence changea brusquement d'avis et, retournant d'où elle était venue, prit la route de gauche qui menait à la maison du canal. Arrivée là, elle abandonna sa voiture et alla regarder à travers la grille, cherchant à voir si l'un des Perry se trouvait dans le jardin. Mais celui-ci était désert. Elle entra et gagna l'arrière de la bâtisse. La porte d'entrée était fermée et les fenêtres closes. La déception de Tuppence était à son comble. Peut-être qu'Alice Perry était allée faire des courses à Market Basing. N'empêche que Tuppence avait très envie de la voir. Elle frappa, d'abord doucement, puis à coups redoublés. Pas de réponse. Elle tourna la poignée. La porte ne s'ouvrit pas. Elle était fermée à clé. Tuppence se balança d'un pied sur l'autre, ne sachant quelle conduite adopter. Il y avait certaines questions qu'elle tenait à poser à Alice Perry. Cette dernière était peut-être à Sutton Chancellor. Elle allait sans doute rentrer. L'ennui, ici, à la maison du canal, c'est qu'il n'y avait jamais âme qui vive dans les environs, et que la circulation sur le pont était quasiment nulle. Personne à qui demander où pouvaient bien être les Perry ce matin.